Je suis convaincu que c'était une crise de l'hospitalité parce que vis-à-vis de cette exigence qui, à mon avis, est politique, mais aussi c'est profondément théologique et donc évangélique, de la rencontre de l'autre et de l'accueil de l'autre, on se sent particulièrement faible parce que finalement se confronter avec l'autre différent, l'autre même qui frappe à notre port avec ses besoins, etc., ça met totalement en question qui nous sommes, notre identité, notre style de vie, et le fait qu'on ne peut plus vivre comme si l'autre n'était pas, si l'autre n'existait pas, au fond. Donc, je crois que même si ces réticences qu'on a vis-à-vis de l'autre qui frappe à notre porte, parfois, on les part d'une exigence de défense, de valeur, d'identité chez nous, en réalité, l'identité déjà elle-même est en crise. Et l'autre, c'est une chance pour la reprendre en main, pour se découvrir différent, parce que seulement si on est différent, et seulement si on a un chez-soi qui est mûri, compris, intégré, on peut aller à la rencontre de l'autre.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Européens ne se sont pas posé cette question de l'identité et qu'aujourd'hui, hop, ça leur explose à la figure et que du coup, ils sont un peu désemparés?
Je pense que depuis trop longtemps, l'Europe, elle vit sur son passé historique, sur son histoire riche, indéniable, en construisant une identité qui, par opposition. Qu'est-ce que je veux dire? Que de plus en plus, on savait, on croyait savoir qu'est-ce qu'on n'est pas, qui on n'est pas, mais on ne sait pas véritablement qui on est. On dit très facilement, on n'est pas comme eux. Leur valeur, leur credo, pensons à l'islam par exemple, ne fait pas partie de notre identité historique, etc. Ce que d'ailleurs est très discutable au point de vue historique, etc. Mais finalement, quand on arrive à la véritable question, qui on est, qui es-tu, pour aller à la rencontre, là, on est dépourvu de mots, on est dépourvu d'analyse, etc., parce que je pense, pendant des décennies, on a pensé que la construction de notre identité tournait surtout autour des valeurs économiques et d'un projet incertain au point de vue même politique, et on n'a pas travaillé sur les fondements.
Pourquoi le fait d'être étranger fait peur à ce point? Est-ce que c'est lié au pouvoir des images? On sait qu'aujourd'hui, les migrants, les réfugiés sont liés aussi à cette guerre terrible qui déchire le Moyen-Orient, avec Daesh, avec des islamistes très violents. C'est ça qui fait peur ou c'est beaucoup plus profond?
Il y a plusieurs facteurs, je pense. Ça, sans doute. Parce que après avoir créé l'image exotique de l'autre, autrefois, dans les années encore 70, 80 même, on essayait d'aller à la rencontre de l'autre. Mais jusqu'à quand l'autre, on le rencontre dans des temps et des lieux déterminés. Quand on veut, même en monnayant, en payant pour faire ça, c'est une chose. Quand l'autre frappe à notre porte, quand l'autre partage notre palier, c'est tout à fait différent. Et ça, c'est un aspect. On vit un temps de crise, c'est indéniable. Économie, politique, etc. Et il y a une manipulation de cette crise de la part du politique qui nous fait croire que cette crise, c'est au fond le fruit de l'attaque au château fort de l'Occident, de la part de ceux qui sont autour. En réalité, ce n'est pas vrai. La crise met en exergue l'interdépendance planétaire qu'on n'avait jamais pris en considération. Parce que quand on était bien, le fait que déjà il y avait toute une humanité qui était fortement en crise depuis très longtemps, ça touchait très très peu. Quand en réalité cette crise commence à nous toucher, nous, on se rend compte des effets collatéraux aussi. Et après, il y a énormément de contradictions de fond qu'on n'est pas capable à véritablement analyser. Par exemple, un des credos du libéralisme absolu, c'est la libre circulation. La libre circulation, notamment, des biens. Et aujourd'hui, tout en croyant profondément à ça et tout en ayant créé notre richesse sur cette libre circulation, on n'accepte plus que cette libre circulation puisse concerner des gens, d'êtres humains, qu'eux aussi, fils de la globalisation, ils voient malgré tout comme nous on vit dans ce temps ainsi dit de crise, et ils se disent pourquoi nous on serait écartés de ce bonheur qui est une exigence de fond de tout être humain. Non. Et à propos de ça, je trouve parfois absolument ridicule la distinction qu'on essaie de faire en Occident entre les migrants de la violence et de la guerre Et tout simplement, ceux qui cherchent, les migrants économiques, qui cherchent du bonheur en Occident, ne sont pas des vrais migrants parce qu'eux, ils cherchent du bonheur. Comme si chercher du bonheur, c'était un péché. Qui ne cherche pas du bonheur? Pourquoi s'écrit quelque part que nous, par élection divine, on était destinés à ce bonheur et 2/3 de l'humanité pas? C'est complètement absurde de soutenir et il faut faire avec, donc repenser à nos politiques, à notre économie.
On parle beaucoup de réflexes identitaires, des réflexes d'ailleurs qui n'épargnent pas certains chrétiens. Mais en fait, si je vous suis bien, c'est pas vraiment des réflexes identitaires, au contraire, c'est des réflexes d'un manque d'identité, c'est ça?
Je pense que oui. Parce que, en fait, la rencontre de l'autre, l'autre différent par rapport à moi, tout d'abord, ça renvoie à moi-même. Qui suis-je? Le véritable dialogue, parfois on l'oublie, exige la différence, exige l'altérité. Sinon, ça serait un monologue devant un miroir. Mais, justement, me renvoie sans cesse à mes richesses et aussi à mes pauvretés et à une nouvelle idée qu'aujourd'hui n'est pas véritablement médiatisée par une certaine politique. C'est-à-dire que la rencontre de l'autre, tout en m'obligeant à repenser mon style de vie, peut être aussi une richesse. Et que dans cette rencontre, je dois entrer dans une logique nouvelle qui est une logique de la gratuité, où tout n'est pas rentable au sens de revenus, de retour pour moi-même, mais est rentable dans la mesure où il y a une réciprocité, dans la mesure où j'arrive vraiment à m'épanouir en donnant et en recevant davantage par l'autre qui fait la même chose. Voilà pourquoi je pense que dans l'hospitalité et dans la rencontre se joue aussi, au point de vue chrétien, quelque chose de profondément théologique. Parce qu'à mon sens, dans cette hospitalité, il y a vraiment quelque chose de l'incarnation qui se renouvelle aujourd'hui. Et ça suffirait de reprendre les évangiles en main. La question de l'accueil de ce Dieu fait homme traverse la parabole historique du Christ, Jésus de Nazareth. Et encore aujourd'hui, cette question se renouvelle. Et parfois, on pense être détenteur de la vérité, même religieuse, de la foi. En réalité, voilà, on tombe devant à l'exigence la plus immédiate de l'Évangile, que c'est justement reconnaître cette nouvelle présence de Dieu qui continue à s'incarner aujourd'hui dans le monde, dans l'étranger qui frappe à ma porte et qui renouvelle cette incroyable logique d'un Dieu qui lui-même se met à notre porte, il frappe et il entrera pour partager le repas dans la maison de ceux qui ouvriront cette porte.
Quel est le sens chrétien de l'hospitalité? Est-ce que ce sens a changé au fil de l'histoire?
Je pense que tout d'abord l'hospitalité c'est une valeur qui est partagée quelque part, avec des nuances différentes, par toutes les grandes religions abrahamiques. Et ça, c'est aussi très interpellant parce qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a une exigence extrême de mettre en dialogue les croyants des différentes, tout d'abord, religions abrahamiques, là où on a, par exemple, une manifestation d'un certain islam qui nous fait peur en Occident, etc., et qu'on oublie très souvent que 80 et même plus pour cent des musulmans dans le monde sont des croyants, cherchent comme nous le sens à leur vie et qui pensent que ce sens peut être le fruit d'un don qui vient de la transcendance. Oui, je pense qu'il y a une valeur profondément chrétienne parce que c'est aussi l'enjeu inouï au point de vue, par exemple, chrétien, du fait d'un Dieu qui ne s'impose pas à l'accueil de l'homme, mais qui continue à souffrir en interpellant la liberté de l'homme à l'accueillir. Et c'est quelque chose d'assez déroutant. Et d'ailleurs, c'est un Dieu aussi qui n'impose pas ses droits à détriment des droits de l'homme. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un enjeu très, très important, parce que parfois, peut-être, par exemple, c'est une question qu'on a l'impression qu'on voudrait poser parfois à un certain islam, en Occident, il semble presque que les droits de Dieu doivent s'imposer indépendamment des droits de l'homme. Je ne pense pas que c'est ça, et je pense qu'il y a énormément de croyants musulmans qui aujourd'hui se posent des questions et que, par exemple, nous disent « not in my name », non en mon nom, vis-à-vis, par exemple, d'une violence inouïe, qui d'ailleurs n'est pas inédite, hélas, dans l'histoire des religions, hein, par exemple, déchaînée par l'État islamique, etc. Là, il y a des questions énormes qui vraiment nous obligent à aller aussi aux sources de nos foi respectives.